tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Pixel.
Ça, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà enregistré ce podcast.
De Dwayne.
Hello.
Et de Morren.
Salut tout le monde.
Pixel, on compte sur ton infirmier, n'est-ce pas, pour te donner des médicaments.
Mon infirmier, salaud d'infirmier, rends les médocs.
Voilà. Pour information, c'est la deuxième fois qu'on enregistre ce podcast, nous avons quelques petits soucis techniques, voilà. Allez, au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de Seven, The Days Long Gone. On enchaînera ensuite sur la résurrection de Star Wars Battlefront 2. Nous évoquerons également Never Stop Sneaking. Nous parlerons d'une extension pour Everspace. On parlera de Bally Wilk. On enchaînera ensuite sur Nioh Complete Edition. On enchaînera ensuite sur Windows Mixed Reality. Enfin, surtout Dwayne, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Et enfin, on terminera sur
Steam
Direct. C'est pas moi qui ai mis la
Direct. News.
Voilà. Oui, non, mais c'est toi qui a le VR enthousiaste, donc c'est toi qui m'en occupe, voilà.
C'est ça.
Et sans oublier notre jeu du moment, je vous ferai une critique de Steam World Dig 2. Allez, c'est parti, on va commencer donc avec Seven, The Days Long Gone, mon cher Morren.
Oui, Seven, The Days Long Gone, si vous êtes un ancien du podcast, vous avez probablement entendu parler de ce jeu. C'est un jeu en fait en 3D isométrique vu du dessus, qui mêle à la fois infiltration et parcours dans un style futuriste. Et ça y est, on sait quand ça sort le 1er décembre, et c'est un jeu qui nous a carrément tapé dans l'œil, n'est-ce pas Tyran?
Bah écoute, personnellement, pourquoi j'attends ce jeu? Parce que déjà, infiltration. Vous savez, hein, si vous écoutez régulièrement les podcasts, que c'est un genre que j'affectionne particulièrement. Et surtout, c'est un genre qui est un peu tombé dans l'oubli hein, ces dernières années. Bon, après, c'est pas un pur jeu d'infiltration, mais justement, ça allie des genres que j'aime beaucoup. Il y a le parcours, il y a le RPG en plus. C'est un jeu qui a beaucoup évolué sur le plan graphique. Il a doté un style en cel-shading qui, moi, me convient tout à fait. Visuellement, on va dire, je suis extrêmement alléché, n'est-ce pas? Et sinon, juste peut-être un petit bémol, enfin une inquiétude plutôt. J'espère qu'ils vont vraiment travailler le gameplay pour que ce soit fluide. C'est important sur un jeu en parcours. Et ensuite, j'ai peur pour eux parce que le 1er décembre, ben c'est le mois de décembre, quoi. Et va falloir jouer des coudes pour faire de la place. Voilà.
Effectivement, après, ça pourra faire un peu contre-emploi par rapport au gros blockbuster. Après, moi, je suis aussi assez intéressé à l'aspect infiltration, le parcours, même les mouvements qui sont assez propres et tout. Donc, moi, ça me donne bien envie également.
Et puis surtout, avec la caméra en vue du dessus, là, ça a l'air lisible, quoi. Enfin, moi, c'est ça vraiment qui est important, ce jeu-là.
Ouais, c'est ça qui est cool, je fais moi le rapprochement, voilà, avec Mark of the Ninja, ça m'avait marqué sur ce point de vue-là. Dans le sens où t'as l'aspect en fait 2D qui fait que ça, pour moi c'était presque la quintessence de la filtration, dans le sens où tout était extrêmement clair, lisible, et en plus du fait qu'ils apportaient des mécaniques assez cool. Et là effectivement ce jeu me fait bien envie aussi à ce niveau.
Alors, on va enchaîner sur la résurrection de Star Wars Battlefront 2. Et oui, je parle bien de résurrection car on parle du Star Wars Battlefront 2 de 2005. Pas celui qui va sortir et des retours de couleurs qu'on a eu de certains membres de la rédaction n'est pas hyper brillant, n'est-ce pas? On va dire ça comme ça. Et donc, Star Wars Battlefront 2 revient d'entre les morts. Il se trouve que GOG a fait une annonce récemment en disant « Ah, au fait, on a sorti une mise à jour de Star Wars Battlefront 2 qui rétablit le multijoueur et qui, surtout, établit une connexion cross-plateforme avec Steam. Toute la communauté de Star Wars Battlefront 2 pourra jouer ensemble. » Et ça, ma foi, c'est une super nouvelle. Voilà. Bon, on va parler maintenant de Never Stop Sneaking. Mon cher Dwayne, c'est quoi ce titre à coucher dehors?
Alors, Never Stop Sneaking, c'est le nouveau jeu de Dean Dodrill, donc c'est lui qui avait fait Dust An Elysian Tale, qui est sorti en 2012 sur le XBLA, donc voilà, Dean Dodrill, je le rappelle, il avait travaillé seul sur ce jeu pendant 3 ans et demi, il est sorti en 2012 sur le Xbox Live Arcade suite à un concours qu'il avait gagné avec Microsoft et qui lui avait permis de signer ce contrat. Donc c'était un action RPG style animation assez cool que j'avais justement reviewé la première fois où je suis arrivé à Game Info. Donc là, il a sorti un trailer pour son nouveau jeu. Donc c'est un peu un spoof de Metal Gear. On va avoir des agents spéciaux qui auront pour mission d'arrêter un grand méchant, Amadeus Guildenstern, qui voyage dans le temps pour kidnapper tous les présidents. Donc il y a un côté aspect PS1 avec de la grosse 3D assez angulaire, on va dire.
Oui, sans l'aliasing.
Même si, voilà, c'est assez propre. Et il y a également un côté en vue du dessus ou avec l'attaque des différentes
bases. Alors attention, quand on dit Metal Gear, c'est vraiment plutôt dans l'esprit du jeu, dans l'aspect parodique limite par moment, que dans le gameplay, parce que dans le gameplay c'est vraiment très orienté à action, limite twin stick shooter quoi par moment, j'ai l'impression. Il y a l'air d'avoir un esprit infiltration dans le sens où quand t'arrives derrière t'as un avantage sur les ennemis, etc. Mais ça a l'air vraiment beaucoup beaucoup plus orienté action qu'à Metal Gear quoi.
Voilà, moi ça m'intéresse pas mal, ça sort pour la fin d'année. Bon, moi je suis un gros fan de Zine the Dread, j'attendais une suite à Dust.
Et alors, on peut pas être créatif, monsieur Dwayne, hein?
Ah, ça par contre, je comprends tout à fait, dans le sens où il a quand même, si on prend tout le développement, plus les sorties sur à la fois la Xbox, le PC, ensuite les plateformes mobiles, etc. Il a quand même travaillé en tout pendant 6 ans sur le jeu. Il a terminé en 2015 avec la sortie sur iOS, donc peux comprendre que t'aies envie de faire autre chose après ça.
Un truc un peu plus léger, quoi, peut-être en termes de taf.
Exactement. Donc, c'est tout à fait compréhensible, même si je reste, voilà, mon petit cœur de fan reste déçu.
Bon, allez, je vais maintenant faire la news pour Mordren, n'est-ce pas? Et la news pour Mordren, c'est une annonce d'une extension pour Everspace. Alors, Everspace, qu'est-ce que c'est? Je rappelle donc que c'est un espèce de roguelite orienté action dans l'espace, n'est-ce pas? Vous allez voyager de système en système, un peu à la Faster Than Light, mais oui, dans un jeu avec des dogfights, comme on va dire, tout simplement, où vous allez améliorer votre vaisseau au fur et à mesure, où vous allez miner des trucs. Alors ça, Mordren, il est fou, n'est-ce pas? On va miner des trucs, attention, c'est pour lui. Et donc, annonce d'une nouvelle extension, qu'est-ce qu'elle va ajouter? Un nouveau vaisseau, des nouvelles armes, des nouvelles stations spatiales qui offriront de nouveaux services, genre la possibilité d'améliorer votre vaisseau, de convertir et de raffiner des ressources, ce genre de choses, voilà. Après, il y aura des nouvelles quêtes, évidemment, liées à l'histoire, scénarisées, etc. Donc, Mordren, je voulais te demander, tout simplement, toi qui as streamé ce jeu, n'est-ce pas? Je rappelle qu'il arrive à Mordren de streamer. Que penses-tu de cette extension? Est-ce que tu es tenté ou est-ce que tu as déjà fait le tour de la question?
Alors, c'est une très bonne nouvelle pour le jeu parce que ça montre qu'il y a une demande et donc du coup que le jeu a plutôt bien marché. Moi, de toute façon, je suis pas encore allé assez loin pour avoir besoin d'un DLC tout de suite. J'ai encore utilisé qu'un seul des 3 vaisseaux qui sont disponibles dans le jeu de base et je suis pas encore du tout allé jusqu'à la fin de l'univers qui est connu dans Everspace. Mais c'est intéressant parce que ça, chaque vaisseau, en fait, apporte un gameplay différent et une façon de jouer différente. Du coup, c'est hyper intéressant d'en avoir un quatrième comme celui-ci, et en plus, lui va avoir des armes vraiment différentes. Il y a un double système de boucliers, ce qui n'est pas le cas des 3 précédents. Puis j'ai vu quelques armes assez sympas, notamment tu tires sur tes cibles, t'as des espèces de blobs qui s'agrègent autour du vaisseau.
Ouais, une espèce de glue gun, là. Ouais.
Voilà, je trouve ça assez stylé. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas testé Everspace, je vous encourage à le faire, parce que c'est vraiment un roguelike intéressant, qui effectivement est assez punitif, dont le Die and Retry a finalement un intérêt. Parce que à chaque fois que vous recommencez, en fait, vous accumulez toute la thune que vous aviez amassée dans votre let's play précédent. Et du coup, vous allez le répartir pour acheter des nouvelles technologies, des nouvelles armes, des nouveaux plans pour votre vaisseau. Mmh. Et du coup, à chaque fois que vous recommencez, donc à chaque fois que vous mourrez, vous avez la possibilité de repartir grandi, en fait, de cette expérience. Donc à chaque fois, j'essaie de grappiller 15 cm de plus à chaque gameplay pour aller plus loin. Donc c'est vraiment cool.
Alors pour que Mordren en dise du bien, lui qui aime pas les jeux où on meurt souvent, n'est-ce pas?
Ouais.
C'est que bon, ça doit être quand même assez équilibré. Voilà.
Ouais, franchement c'est plutôt cool.
Et puis bon, je trouve que ce genre d'extension c'est bien pour ce type de jeu parce que justement l'intérêt des roguelites c'est que tu as toujours des armes un peu plus fun que tu découvres par-ci par-là, ouais. Et c'est important de rajouter du contenu au fur et à mesure comme ça, je trouve.
Puis l'avantage aussi, c'est que du coup, t'as pas besoin d'être allé très loin en fait pour en profiter. Mais si t'as déjà poncé le jeu dans long, en large et en travers, ça te donne une bonne raison d'y retourner. Donc au final, c'est bien pensé.
Voilà. Ok, bon, Pixel, on va parler de Bialywilk. Qu'est-ce que c'est?
Je crois que ça veut dire loup blanc, polonais, ou un truc comme ça.
Ça aurait du sens.
Ça aurait du sens.
Polonais, attention, vous voyez vers où on se dirige, n'est-ce pas?
Voilà. Loup blanc polonais, bah, c'est en fait Bialyville, que c'est un documentaire de presque 2 heures qui est sur le, en fait, la saga The Witcher, la saga jeu vidéo.
Voilà.
C'est un documentaire polonais, donc on parle en polonais dedans.
Il y a des sous-titres.
Ne vous inquiétez pas, il y a des sous-titres en anglais pour l'instant. Est-ce qu'il y aura des sous-titres en français? Je ne sais pas. Mais c'est très intéressant parce que on a les développeurs de The Witcher qui nous expliquent en fait tout le processus de création du jeu vidéo. Et y compris aussi, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'ils nous présentent une version extrêmement ancienne de The Witcher qui date de 1997.
Alors c'est deux choses séparées, il me semble. Cette version-là, c'est pas CD Projekt, c'est autre chose encore.
Voilà, mais on voit un petit bout de ce qu'était en fait The Witcher en 97.
Ah d'accord,
okay. Voilà, c'est comme ça, ouais, j'aurais dû formuler ma phrase autrement. Mais bah, on peut enchaîner justement sur ce qui a été présenté en fait récemment sur YouTube. C'est cette fameuse version de 97 de The Witcher, dont tout le monde ignorait l'existence d'ailleurs, qui est un jeu jamais fini, jamais sorti, qui avait été développé par Metropolis Software, hein, qui sont des Polonais.
Alors, sachant que dedans, il y a le créateur de The Vanishing of Ethan Carter ou Bulletstorm, notamment. Donc, voilà.
Voilà. À l'époque, ils avaient tenté d'adapter l'univers des romans de Andrzej Sapkowski. Je le prononce plus ou moins bien.
Oh, bah, tu sais, c'est pas moi qui vais te faire de reproches.
C'est Andrzej.
On va pas te jeter la pierre. Hein.
Andrzej Sapkowski. Enfin, un truc comme ça. Enfin, un Polonais qui écrit des romans. Et ça avait dû être annulé. Tout simplement parce que le jeu était trop ambitieux pour le studio. Ça leur coûtait peut-être trop cher et puis les développements trop longs.
Bah honnêtement, vu ce qu'on voit, je veux bien le croire. Hein.
Parce qu'il existe, sur YouTube. En fait, tu as les anciens développeurs de Metropolis Software en fait, qui font une démonstration du jeu de 97. Et il faut le reconnaître, c'est que pour un jeu de 1997,
ça donne des torgnoles quand même, hein.
Voilà, il est très 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 impressionnant pour un jeu de 97. Surtout pour un jeu issu d'une petite équipe de développement polonaise dont tout le monde ignorait l'existence, quoi.
Ouais, c'est ça.
À l'époque, on avait Dieu que pour les développeurs anglais ou français ou allemands, tu vois. Mais les Polonais, on pensait pas qu'ils étaient capables de faire des jeux vidéo comme ça. Eh ben si. On voit un jeu qui est visuellement en fait copié sur Resident Evil, le premier. Mais avec des mouvements de caméra en temps réel et fluides en plus. Ce qui ne se faisait pas à l'époque dans le jeu PC, d'Europe de l'Ouest, on va dire ça comme ça. Le jeu occidental d'Europe de l'Ouest, on va dire, à l'époque, en 3D, qui faisait parler de lui, c'était Tomb Raider. Et à côté, tu lui mets ce The Witcher annulé, Tomb Raider, il fait un peu pâle figure quand même, quoi.
Enfin, les décors, c'est une boucherie, quoi. Alors, je sais que les jeunes qui vont nous écouter, ils vont voir la gueule de Gérard de Rive, ils vont rigoler. Bon, déjà, il est violet. Et en plus, il est cubique. Mais pour l'époque, moi, je le trouve vachement bien modélisé. Bon, cela dit, Lara, je la trouve mieux modélisée, hein, pour l'époque. Mais par contre, les décors, enfin, c'est incomparable, quoi. Enfin, c'est la folie. Vraiment, c'est la folie. Pour un jeu de 1997, les décors, moi, j'ai jamais vu ça, quoi.
Voilà, si on peut le comparer à un jeu connu de tous, ça serait plutôt Resident Evil Code Veronica. C'est très très ressemblant au niveau des mécaniques des caméras et de déplacement. C'est pareil.
Surtout qu'en plus, ils avaient l'air d'avoir un jeu qui était très axé sur une histoire à choix multiples, des embranchements, voilà. Etc. Bon, cela dit, je suis pas tout à fait d'accord parce que pour un confidence, on a trouvé l'article sur jeuxvideo.com, hein. Ils disent que c'était assez inédit pour l'époque. Les mecs, il y a un jeu qui s'appelait Fallout à l'époque. Un jeu avec des choix moraux, des multiples fins, etc. Ça existait déjà. Hein, voilà.
On vous invite à regarder la vidéo. On va vous mettre le lien.
Oui, comme d'habitude.
Comme d'habitude. Et vous allez voir, c'est... Bon, oui, Gérald, il est cubique, il est violet fluo, mais on s'en fout.
Mais par contre, ça, c'est la question que je me pose. Mais pourquoi, quoi? Pourquoi violet, quoi? Qu'est-ce qui vous a fait, ce pauvre Gérald?
C'était pour qu'on le voit bien, certainement, à l'écran, quoi. Ouais. Pour qu'il soit contrasté avec les ennemis, certainement.
Et il faut que ça pop, il faut que ça pop.
Voilà. Ou c'est peut-être le goût vestimentaire des Polonais en 97, j'en sais rien.
Annulée, hein. Peut-être qu'il aurait changé de couleur après. C'était un peu soldeur aussi, hein, voilà, tout peut-être. Simplement. Ok, bon, on va enchaîner. Je vais vous parler en vitesse de Nioh Complete Edition qui arrive sur PC. Eh oui, ça y est, Nioh arrive sur PC. Ce n'était donc pas une exclue PlayStation, n'est-ce pas ? Ce n'était qu'une exclue temporaire. Donc, on aura droit à la 4K, le 60 FPS, tous les DLC qui sont sortis, les textures HD, évidemment. D'ailleurs, soit dit en passant, les mecs, 100 gigaoctets, ça va pas être possible, je vous le dis tout de suite. Parce qu'ils ont annoncé 100 gigaoctets, mais j'espère que ce sera genre en option. Parce que au départ, ah, j'étais chaud pour encourager l'initiative, mais quand j'ai vu 100 gigaoctets, j'ai fait nope.
Super, je pourrais y jouer dès 2018.
Mais sinon, à part ça, écoute, j'espère que ça sera mieux optimisé que les derniers partages, c'est Koei Tecmo, c'est ça, qui sont pas terribles sur PC, donc j'espère que ce sera propre. Pixel, toi qui as retourné le jeu de base, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Est-ce que tu es tenté ? Ou est-ce que tu as suffisamment retourné le jeu pour dire non, c'est bon ?
Alors, j'ai retourné tellement le jeu sur PS4 que ça fait quelques mois que j'y joue plus. Mm-hmm. Mais là, le fait d'apprendre que là, ça va sortir sur PC, j'étais très surpris parce que ça a été annoncé vraiment à la dernière minute, quoi, à la japonaise, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Et j'étais content. Je me suis dit, voilà, il était temps que ça sorte sur PC de toute façon parce que...
Les exclus et la mort Walneau, ça va bien 5 minutes, quoi.
Voilà, puis bon, la version PS4, même si tu le mets en version 60 FPS, bah il est pas tout le temps à 60 FPS, et puis le 720p, ça commence à piquer des yeux en 2017, quoi. Mm. Et puis quand tu le mettais en 1080p, bah tu l'avais en 30 FPS, mais ça ramait quand même aussi, quoi. C'était en dessous des 30 FPS, quoi. Donc le jeu, voilà, le jeu, il accusait en fait ses multiples tares de programmation, quoi. Et là, pour cette version PC, comme je l'ai dit, j'étais content, mais j'ai eu l'impression, en fait, d'être pris pour un imbécile parce que j'ai acheté la version PS4 pour rien, finalement.
Je précise au passage que Nioh, c'est un des jeux qui m'a décidé à acheter une PS4. Hein. Donc si je l'avais tout con, voilà, on n'aurait pas de PS4 aujourd'hui, tu vois.
Mais, alors cette version PC, je vais l'acheter. Mais pas en des maths, hein. C'est hors de 100 gigas.
Mais Pixel, tu sais très bien que si tu achètes une version physique, il y aura un petit patch à télécharger après pour...
Bah ouais, comme d'habitude. Ouais, mais là, je me demande combien de gigaoctets ils vont pouvoir rentrer dans les DVD qui seront dans la version physique.
Non, et puis à un moment donné, je veux dire, la 4K, c'est bon, quoi. Pensez voilà. Aux gens qui s'en branlent de la 4K. Faites une version qui divise par 3 la taille, quoi. Ça va pas être possible, sinon. Hein. Franchement...
Un 100 gigaoctets, si t'as pas la fibre, tu peux pas le télécharger, c'est impossible.
Bon, après, ils ont dit 100 gigaoctets sur le disque dur, donc en compressant, il y a moyen de réduire ça, mais...
Mais c'est chaud, quoi, c'est chaud. Ça annonce la prochaine génération de jeux PC qui vont dépasser la barre fatidique des 100 gigas, quoi.
Ouais, bah, à ce moment-là, j'arrêterai d'acheter des AAA sur PC, hein. Moi, je te le dis tout de suite. Hein. À un moment, faut arrêter de déconner, quoi, les mecs. Hein.
Ouais, bon, pour l'instant, on n'a pas encore vu de vidéo de gameplay de la version PC spécifique.
Ouais, parce que encore une fois, vu l'historique du studio, faut se méfier, hein.
Qui nous donne au moins du 1080p 60 fps, je serais content, tu vois. J'espère que ce sera pas trop dégueulasse, j'espère.
Parce que c'est un jeu qui le mérite et qui mérite d'avoir une expérience fluide. Surtout dans un jeu comme ça, quand même, qui est encore plus exigeant que Dark Souls, je trouve, en termes de timing, quoi, qui est beaucoup plus speed. Avoir un jeu fluide, c'est très important, quoi. Vraiment.
Ouais, exactement. Nioh, il faut de la fluidité, sinon, bah, le jeu est basé sur la fluidité. Mmh. Et sur la rapidité des combos. Donc, t'es obligé d'avoir du 60.
Voilà. Allez, on va passer à notre verre enthousiaste, n'est-ce pas?
Oh là là,
qui a acheté tous les casques de réalité virtuelle.
C'est quoi ce titre de merde?
Il en faut toujours un. Hein.
Vert enthousiaste, quoi.
On va parler de Ben.
Le vert enthousiaste qui n'a aucun casque vert.
C'est un troubleur.
Mais si, tu les as tous achetés en secret.
Non, mais on va dire que comparé au reste de l'équipe, Ben, tu es moins dubitatif, quoi.
Allez.
Bon, cela dit, Windows Mixed Reality, il y a quelques nouvelles, n'est-ce pas, par rapport à la
tout
dernière
à
fois, et on a appris des trucs qui, ma foi, peuvent être intéressants.
C'est ça, donc c'est lors d'un événement fait à Redmond, où Microsoft a annoncé un peu son plan général au niveau de la VR. Donc dans un premier temps, il va y avoir en fait 6 casques qui vont arriver, donc faits par différents fabricants, donc il y aura Acer, HP, Asus, Dell, Lenovo et Samsung.
Voilà.
Donc le plus technologique, on va dire, ce sera celui de Samsung. Après, il y a aussi un point important, c'est que, par exemple, celui de Acer, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est celui-là qui sera à 300€. Donc on commence à arriver sur des prix un peu...
Abordables.
plus abordables, effectivement. Et il y a aussi le fait que la plateforme en fait Windows Mixed Reality va justement mélanger réalité virtuelle et réalité augmentée.
Oui, parce donc que ça c'est la question partie, qu'on se posait. Je voilà, me rappelle à l'époque, on croyait dur comme fer que c'était un casque de VR normal, tu vois. Et on se demandait pourquoi Windows Mixed Reality. Bah on a la réponse. Il y aura aussi de la réalité augmentée dedans, quoi.
Donc après, le seul truc qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment la plateforme. Là, je n'ai pas encore vu de news par rapport à tous les casques. Est-ce qu'ils vont tous prendre en compte les deux aspects? Ça, c'est encore une question. J'ai pas exactement la réponse pour l'instant. Par contre, la plateforme va soutenir ces deux aspects. Donc, ça va permettre effectivement d'avoir un mix entre les deux qui pourra être intéressant sur certaines applications.
J'imagine le gars qui achète son casque tout content et qui se rend compte qu'en fait c'est que de la VR et j'espère que ça sera clair en tout cas en termes de communication, quoi.
Ouais, clairement. Dans tous les cas, voilà, là ils ont également annoncé il y aura le jeu Halo Recruit qui sera disponible sur tous les casques donc dès le lancement. Donc ça c'est un peu comme un peu tout ce qu'on a, c'est vraiment une expérience Halo assez légère pour montrer un peu techniquement ce que peut donner l'AVR avec Windows, donc on verra bien ce que ça va donner. Dans tous les cas, c'est prévu pour la fin d'année.
Bon, tout le monde s'en fout?
Ouais. J'entends les criquets.
Moi qui croyais que 2017 allait être l'année de l'AVR, je crois que je me suis planté. Hein.
Bixel, encore une fois, je veux dire, Dwayne quand même vient de faire une news où on t'annonce qu'il y a quand même... il y a combien de constructeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 constructeurs qui sont pas des petits constructeurs, qui viennent d'annoncer qu'ils allaient faire des casques VR. Enfin, on peut pas dire non plus que c'est en recul, quoi.
Enfin bon, c'est pas la révolution, tu vois. La révolution, on l'a toujours pas pris. Hein.
Après, comme je l'ai dit, c'est un peu ça le problème. Hein. C'est même pas une bonne news, ouais, finalement, parce que si t'as
six casques,
voilà, c'est ça
tu
le problème.
Compte,
c'est...
Quoi.
C'est ça, exactement. D'offres. C'est même pas une news qui annonce que c'est l'année de la VR. C'est une news qui annonce que la VR pourra avoir éventuellement son année. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une configuration où monsieur tout le monde ou ma tante va dire « Ouais, pourquoi pas acheter ça pour mon cousin ?» Tu vois, c'est vraiment là, ce sera juste les early adopters. Même moi, je fais partie en fait des early adopters sur pas mal de techno. Et là, c'est même pas encore à mon niveau d'early adopter, tu vois. La seule chose que je dis, c'est qu'à un point de vue business, on est sur tous les gros acteurs qui sont dessus. Qu'à un moment donné, t'auras plein de morts, que ça va en fait s'assainir et qu'on va pouvoir en fait avancer. Et là, vu tous les acteurs qu'il y a, je veux dire, quand t'as Facebook qui est dans le game et qu'à côté t'as Samsung, etc., enfin tous ces acteurs-là, bah à un moment donné, bah il y a des milliards quand même qui sont mis sur la table, que ce soit pour le jeu vidéo ou d'autres interactions, comme le porn par exemple, etc., et ça va pouvoir en fait s'émanciper, mais pas tout de suite. Ce sera lorsque le marché sera un peu plus mûr.
Alors, pour moi, qui est ce casque, c'est pas un problème. Hein. Enfin, il y a je sais pas combien de marques de smartphones, ça n'a jamais posé problème. Le problème, c'est que t'as plusieurs plateformes. T'as la plateforme de Windows, t'as la plateforme Oculus, t'as la plateforme de Valve. T'as des exclusivités sur chacune de ces plateformes. En tant que consommateur, tu dis, en fait, je vais attendre qu'il crève, tu vois, et je choisirai celui qui survivra à la fin, comme ça, je me ferai paniquer, quoi. Bon, je vous propose qu'on passe à la suite, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter.
Non.
Et Morren, on va commencer, enfin, on va terminer avec une news sur Steam Direct, qui commence à faire grincer des dents.
Ouais, bah alors Steam Direct, évidemment, hein, dès son annonce, on était déjà assez dubitatif par rapport à sa mise en œuvre par Valve. On rappelle que c'est la possibilité pour à peu près tout le monde qui est capable de donner $100 à Steam pour accéder à la bibliothèque en fait de Steam. Et voilà, ça s'est mis en place cet été. Et depuis, on assiste à une énorme vague, comme c'était prévu, hein, de sorties sur Steam. Pour info, ça fait 6 semaines que Steam Direct est en ligne. Il y a déjà 1000 jeux qui sont entrés dans le portefeuille de Steam depuis 6 semaines. Donc évidemment, on arrivera à une année record en 2017.
Bah, de toute façon, d'année en année, on explose le record. Donc voilà.
Ouais, mais toujours de plus en plus tôt. Donc évidemment, aussi à cause de Steam Direct. Enfin bref. Ça, c'est une problématique pour les éditeurs et les développeurs hein, qui, forcément, dans la masse, ont tendance plutôt à se noyer plutôt qu'à se démarquer. Et notamment Daedalic Entertainment, donc qui sont responsables de jeux comme Deponia ou The Long Journey Home, par exemple. Voilà. Ils ont été également éditeurs de Tales of the Monkey Island.
Où il y a les piliers de l'éternité, je crois.
Les piliers de la Terre.
Les piliers de la Terre, voilà. Les je confonds avec Pillars of Eternity.
Oui, bien sûr. Et éditeur de Machinarium également. Enfin bref, le président, qui s'appelle Carsten Fichtelmann, voilà, qui forcément essaie de se faire l'écho de son mécontentement. Et donc il dit, par exemple, 1000 sorties en 6 semaines sur Steam, c'est de la folie, je l'avais vu venir. $100, ce n'est même pas une barrière. Même 2000 ou 3000 dollars ne seraient pas suffisants, selon lui. Et il est en train d'expliquer qu'en fait, d'après lui, certains éditeurs et certains développeurs, en fait, vont mourir dans une période de 2 ans, à cause, notamment, de cet afflux massif de jeux qui sont, pour la plupart, hein, des pelletés de merde. Le problème, c'est que dans toutes ces pelletés de merde, en fait, même si t'es bon, tu vas avoir du mal à en ressortir. Voilà.
Bah, c'est ce qu'on avait annoncé, hein, je veux dire, il n'y a pas de surprise. Alors après, moi, mon problème avec le discours du patron de Deilix, c'est son discours en mode ouais, bon, il faut augmenter le prix. Non, il faut pas augmenter le prix, il faut que Valve fasse le tri. Augmenter le prix, ça, c'est la solution de feignasse, qui n'est pas une vraie solution d'ailleurs. La seule solution, on la connaît, c'est il faut que Valve fasse le tri et Valve ne fera pas le tri. Bon, à partir de là, malheureusement, je crois que on ne peut qu'avoir un discours pessimiste. Il va y avoir des morts, Valve ne bougera pas, et ils s'en foutent. Parce qu'ils sont leaders du marché. Quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui sortir un jeu sur Steam, c'est pas la panacée, le fait est que tu es obligé de sortir ton jeu sur Steam, sinon tu n'existes pas. Parce que je veux dire, c'est pas avec GOG que tu vas faire fortune, malheureusement. Donc voilà, hein, Valve s'en fout, de toute façon. Donc ils l'ont montré à de multiples reprises. Les développeurs ont beau aller comme ils veulent, comme ils savent que de toute façon, ils sont obligés de plier à leurs règles, bah ils bougeront pas parce qu'ils ont décidé que il valait mieux laisser sortir beaucoup de jeux et laisser émerger de sous ce merdier les perles plutôt que essayer de faire le tri eux-mêmes. Bon, pourquoi pas, mais moi mon problème aussi c'est que ils avaient annoncé par exemple un système où ils disaient que oui la communauté allait faire le tri, etc. et que ils allaient mettre plus en avant les curateurs. Pour le moment, moi je l'ai pas vu ça. À l'heure actuelle, alors certes, il y a quelques petits jeux qui émergent comme ça, mais le fameux système qui nous avait vendu, où on nous expliquait que vous allez voir, on va filer des jeux au curateur et en fonction des évaluations qu'ils vont mettre, on va mettre ces jeux en avant, etc. Pour le moment, c'est pas en place. Donc, vous attendez quoi, Val, pour vous bouger le cul? Quelque chose à ajouter, messieurs?
Bah, c'est toujours assez compliqué parce qu'on en parle à chaque fois de Steam et tu peux, en fait, qu'être pessimiste, quoi. C'est-à-dire que t'es dans une impasse. Tout le monde sait ce qu'ils doivent faire, mais eux, ils ont aucun intérêt à le faire parce qu'ils ont un monopole assez dingue. Même nous, en tant que consommateurs, je veux dire, il y a des moments où t'es obligé, enfin, t'es pas obligé, mais souvent, tu peux pas passer autre part que par Steam. En plus, t'as tout ton catalogue. Enfin, c'est plus pratique pour le consommateur. Steam, à côté, ils ont ce monopole qui fait qu'ils ont pas, en fait, besoin de, finalement, de tellement nous écouter. Et ouais, c'est très complexe et
après,
franchement là je vois.
Juste pour nuancer, oui. D'un point de vue consommateur, moi c'est pas une mauvaise nouvelle, hein. Enfin je veux dire, j'ai jamais eu autant de choix sur Steam. Moi en tant que consommateur, très franchement, je vais sur Steam, je regarde les nouveautés populaires, j'ai une liste de jeux très cool, hein. J'ai aucun problème pour trouver mon bonheur sur Steam. C'est surtout du point de vue développeur moi que je m'inquiète, hein, parce que sinon ça m'en touche une sans bouger l'autre fondamentalement, hein, en tant que consommateur lambda, je veux dire. Après, ouais. En tant que personne qui se sent concernée du bien-être des studios quand même, parce que je pense que c'est important qu'on ait un écosystème qui soit à peu près sain, parce que au bout d'un moment, je veux dire, il faut quand même que les gens arrivent à vivre de leur boulot, quoi. Je trouve important que Valve fasse quelque chose. C'est ça qui m'inquiète, quoi.
Mais c'est ça, mais c'est justement cet aspect où Valve, en fait, a cette position dominante, où même le consommateur, en fait, pas obligé, mais presque, de passer par eux, parce que c'est simple, en fait. T'es sur Steam, t'as ta plateforme où il y a tous les jeux. Donc, d'un point de vue consommateur, il n'y a pas de raison d'aller autre part. Et d'un point de vue développeur, effectivement, bah, comme on l'a dit, c'est l'impasse et il y aura effectivement des morts au vu de la curation, enfin, du travail de Steam qui est assez, enfin, qui est inexistant au niveau de la barrière, quoi, d'entrée.
Après, le risque, je trouve, c'est que, à un moment, on ait certains studios qui se disent, OK, on va sortir notre jeu sur Switch, vu que c'est l'Eldorado en ce moment. Mais, faites gaffe, les gens, parce qu'à mon avis, ça va pas durer longtemps.
Ouais, c'est un autre, c'est un autre problème, ça.
Et, qui se disent, bon, écoute, Steam, de toute façon, ça sert à rien de sortir les jeux dessus, de toute façon, on n'existera pas. Moi, c'est peut-être le seul petit bémol que je me dis. Mais ça sera que quelques studios. Mais le reste, t'es obligé. Enfin, en plus, vu la facilité de porter les jeux, de faire des jeux multi-support, étant donné que l'architecture est la même, bah, t'as toutes les raisons de le faire, de toute façon. Voilà.
C'est ça.
À ce propos, sur les indés et la Switch, je vous recommande grandement un des éditos qui est sorti sur Gamekult Premium.
Ah, tout à fait.
Sur les indés et la Switch, Oasis ou Mirage, c'est assez passionnant.
Mm. Tout à fait.
Je confirme, excellent.
Juste pour résumer en vitesse, de quoi ça parle, sans, tu vois, détailler l'article, mais...
Non, mais sans le détailler, en gros, t'as l'impression d'avoir énormément d'indés qui se jettent sur la Switch, et à raison, hein, puisque c'est maintenant ou jamais.
Bah surtout quand t'as des indés qui annoncent qu'ils ont fait plus de chiffres sur la Switch que sur les trois autres plateformes réunies, tu vois, donc
c'est ça.
Forcément...
Mais t'as aussi le deuxième son de cloche des développeurs qui ont, eux, énormément de mal à porter leurs jeux sur Switch à cause de Unity. Enfin, leurs jeux sont basés sur Unity, et Unity a beaucoup de mal à fonctionner de manière très propre sur Switch, et du coup, eux ont beaucoup de mal à passer la vérification de Nintendo.
Ça, plus le fait, c'est que ça coûte du pognon en plus, quoi, du coup.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est intéressant d'avoir les deux sons de cloche. Ces espèces de vagues et cette espèce de charme aussi qu'a fait Nintendo aux indés qui, pour le coup, a payé. Mais tu as aussi le point d'interrogation du qu'est-ce que ça va être par la suite, puisqu'à l'heure actuelle, t'as pas de mise en avant hein, qui est fait sur Nintendo eShop sur la Switch. Donc les gens se posent des questions, l'air de rien.
Ok, bon, allez, on en a terminé pour l'actualité cette semaine, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter.
C'est bon.
Nope.
On va parler maintenant d'une critique express de notre jeu du moment, et le jeu du moment, c'est SteamWorld Dig 2. Alors, je vais pas vous faire une critique fleuve, parce que fondamentalement, c'est un jeu qui n'innove pas énormément, mais c'est un jeu qui vaut quand même le détour. Pourquoi ? La grosse nouveauté de SteamWorld Dig 2, qui je rappelle donc, est la suite d'un Metroidvania, tout simplement. Alors, c'est un Metroidvania un peu spécial, SteamWorld Dig, à la base. C'est un Metroidvania où vous allez creuser. Vous incarnez un robot aussi. Ça se déroule dans l'univers qui a été développé par le studio, qui a été étendu avec un autre jeu qui s'appelle cette fois SteamWorld Haste, et qui était un RPG tactique en vue de côté, et qui était franchement une belle innovation. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils abordent des gens connus, mais ils ajoutent leur petite touche. Et la petite touche de SteamWorld Dig 1, c'était le fait qu'on creusait, tout simplement. Le problème de SteamWorld Dig 1, si je puis dire, son plus gros défaut, c'était la génération procédurale, qui donnait des fois, bon, c'était sympathique, mais c'était pas non plus la folie d'un point de vue level design. Et c'est ça, la plus grosse innovation de SteamWorld Dig 2, c'est-à-dire que, bon, fondamentalement, c'est un Metroidvania, voilà, vous allez débloquer des capacités qui vont vous permettre de retourner dans certaines zones auxquelles vous ne pouviez pas accéder, parce que, imaginons, vous n'avez pas le double saut pour accéder à tel endroit, voilà, par exemple. De ce point de vue-là, il ne révolutionne rien. Par contre, il a toujours pour lui, ce qui était la qualité de SteamWorld Dig 1 et qui était l'innovation, c'est que des Metroidvania où tu peux creuser et où tu as cette espèce... de course aux ressources, tu vois. C'est-à-dire que tu creuses, ah, là, il y a une petite veine d'or, je prends la ressource, sauf que au-dessus, en fait, en creusant, il y a une pierre qui va se casser la gueule et qui va m'écraser. Il y a des ennemis un peu spéciaux qui pop comme ça et qui pètent certains pans du décor, ce qui fait que ça va faire tomber des trucs, etc. Bref, Steam World Dig 2, c'est un jeu qui est très classique sur le fond, mais qui, comme le premier, joue énormément sur cette verticalité et sur ce gameplay extrêmement addictif où tu te dis, allez, je continue. Il faut que j'accumule le plus de ressources possible, sauf que si tu crèves, malheureusement, tu vas perdre une partie de tes ressources et tu vas retourner tout en haut. Et ça, cette qualité, il a toujours, et des Metroidvania qui font ça, il n'y en a toujours pas, à part Steam World Dig 1. Donc forcément, si tu prends ce jeu-là et que tu rajoutes un level design super léché, parce que là, pour le coup, il n'y a plus de génération procédurale, c'est du design fait main, et ça se voit tout de suite. C'est-à-dire que c'est un jeu super plaisant, super bien conçu, qui réduit, tu sais, au minimum les inconvénients du Metroidvania. Vous savez, les Metroidvania, des fois, c'est un genre où t'as l'impression qu'on abuse un peu du backtracking pour te faire gagner quelques heures de jeu, quoi, on va
c'est
dire.
C'est clair.
Sauf que là, dans Steam World Dig, comme t'as un système de tuyauterie qui va te permettre, en débloquant certains points, de retourner à la surface. En gros, on va dire que c'est des tuyaux qui sont bloqués, tu vas dégager l'entrée et ça va permettre de circuler. Et le truc, c'est que ces trucs-là sont super bien répartis. Donc du coup, l'aspect backtracking est réduit à son strict minimum, c'est-à-dire que tu circules super rapidement dans le jeu. Et tu circules d'autant plus rapidement que les endroits que tu as creusés restent mémorisés par le jeu. Et donc, tu peux repasser par les endroits où tu as creusé. Donc, comme c'est en verticalité, tu vas très vite quand tu descends. Et comme les points sont très bien répartis, je veux dire, l'aspect backtracking est réduit au strict minimum. Et du coup, tout l'aspect chiant que tu peux avoir dans un Metroidvania, bah, il est tout simplement absent, je trouve, de ce jeu-là. Et ça, déjà, c'est une qualité qui, à mon sens, est un point positif non négligeable. En plus, ils ont rajouté du bestiaire, parce que un des défauts peut-être du premier, c'est que le bestiaire était pas assez varié. Là, je trouve quand même qu'ils ont fait un effort notable, que ce soit en termes de variété du bestiaire, mais surtout en termes de variété des zones. Les décors sont beaucoup plus variés, ont des thématiques beaucoup plus prononcées, et sont beaucoup plus jolies, hein, ça, il faut le dire. Deux points négatifs, cependant, en ce qui me concerne. Le premier point négatif, c'est les boss.
Ouais.
Pour info, il y a un article qui est sorti récemment sur Paper Shotgun que je ne pouvais pas m'empêcher de citer. Un article qui personnellement m'a filé un ulcère, mais en gros, c'est un article qui dit en substance que l'auteur aimait pas les boss dans Zelda Breath of the Wild et que lui, il aimerait bien un bouton pour passer les boss. Sauf que moi, en fait, ça m'énerve ce genre de propos parce que je trouve que c'est en fait, c'est encourager les développeurs à la paresse. C'est-à-dire que si t'as pas aimé cette section du boss, c'est soit que t'aimes pas les boss, mais à ce moment-là, je veux dire, les développeurs n'ont pas forcément inspiré à tes désirs à toi. Soit que le boss est mal foutu, donc il faut que les développeurs se sortent les doigts du cul pour améliorer le système de boss. Soit que les boss n'avaient rien à faire là à la base, mais comme, tu sais, dans les jeux vidéo, il y a des codes comme ça, on s'est obligé de mettre des boss à certains endroits où c'est pas forcément nécessaire de les mettre, etc. Bref, en gros, c'est une attitude, je trouve, qui consiste à chercher la solution de facilité plutôt qu'à chercher des vraies solutions. Et c'est un peu le cas, je trouve, de Steam World Dig 2, c'est-à-dire qu'ils ont mis des boss, il y en a trois dans le jeu, hein, en tout et pour tout, hein, trois boss. Sachant que c'est un jeu qui se termine en, on va dire, 12 heures à peu près. Moi, je crois que j'ai un peu plus de 12 heures, il m'a fallu pour avoir le compteur à 100%, tu sais, parce que il y a des collectables aussi, hein. Genre, il y a des cavernes, par exemple, où tu vas débloquer certains pouvoirs. Il y a un système assez intéressant d'amélioration, c'est-à-dire, ça, ils appellent ça des méca-dopeurs, en fait. Et en gros, ces méga doppers, tu vas pouvoir les utiliser hors ville pour débloquer certaines améliorations à tes pouvoirs, en fait. Et du coup, ces méga doppers, tu peux les récupérer dans le système de caverne. Et t'as aussi un système d'objets donc collectables, qui sont des reliques. Il y a tout un humour qui est organisé autour de ça. D'ailleurs, le jeu est très drôle, hein, soit dit en passant. L'humour typique de Steam World Dig qui fonctionne toujours autant. Et ces reliques, en fait, elles vont te permettre de développer des plans qui vont permettre d'avoir de nouvelles améliorations pour tes pouvoirs que tu vas pouvoir activer avec les méca-doppers. Je sais pas si je suis clair, mais voilà, t'as tout un système de collectables qui est utile en plus, ce qui est, je trouve, cool, parce que les systèmes de collectables où c'est juste pour le sport et où tu t'en fous, ça apporte rien au gameplay, moi, ça m'a jamais convaincu. Là, il y a un vrai intérêt à les chercher. Du coup, donc c'est un jeu qui se termine à peu près en 12 heures, je disais, pour avoir le truc à 100%, sachant qu'il m'a affiché 100%, parce que j'ai fait toutes les cavernes, en fait. Mais je crois qu'il me manquait 4 reliques, à peu près, pour avoir vraiment le jeu vrai 100%, quoi. Donc c'est quand même un jeu qui est court, mais le problème, c'est que sur ces 12 heures, t'as 3 boss. Sur les 3 boss, il n'y en a qu'un qui est indispensable, à mon sens, dans le jeu, c'est le dernier. Parce qu'il y a des mécaniques intéressantes sur ce boss, mais aussi, il apporte des choses intéressantes d'un point de vue climax de l'histoire, quoi, si tu veux. Et le problème, pour en revenir avec le parallèle que je faisais avec l'article dans Paper Shotgun, c'est que je trouve que là, il y a un choix qui n'a pas été fait. Les deux autres boss qu'il y a eu, ils n'ont pas été assez creusés. Et du coup, je pense qu'il y a eu un problème de choix à ce moment-là où les développeurs se sont pas dit, alors, ces boss, est-ce qu'on les retire? Est-ce qu'on les améliore? Non, non, ils ont mis comme ça. Et moi, c'est ça mon problème. C'est, en fait, c'est que je trouve que à un moment donné, il faut oser faire des choix couillus, quoi. Il faut oser se dire, non, ça, ça va pas. Et il faut prendre une décision, en fait. C'est même pas un problème de quantité, tu vois. C'est un problème de ces deux boss-là, tu les fais, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutaient là, en fait?
Ok, ok. Et par contre, t'as évoqué effectivement la durée de vie, donc t'as dit environ une douzaine d'heures. Vu que c'est assez court, est-ce qu'ils arrivent à quand même bien se renouveler? Est-ce que t'as senti une répétition dans...
Ah non, pas du tout. Hein.
Niveau
absolument
de l'expérience, ouais.
Déjà, un, il y a les pouvoirs à débloquer, mais en plus, t'as les améliorations de ces pouvoirs à débloquer.
Ouais, ouais, ouais.
Un exemple d'amélioration de pouvoir à débloquer, une amélioration pour lance-grenade, c'est je le balance trois grenades. En plus, j'ai parlé du système de méga dopper, mais il y a aussi un autre système d'amélioration qui est, tu sais, que chaque pouvoir a un niveau d'amélioration, si tu veux, et ce niveau d'amélioration, tu vas pouvoir le payer, en fait, avec les minéraux que tu débloques dans la mine. Et à chaque niveau d'amélioration, par exemple, c'est j'ai plus de place dans mon backpack, ce genre de choses. Sachant qu'en plus, les pouvoirs supplémentaires que tu débloques avec les méca dopper, il y en a qui sont accessibles au niveau 6 d'amélioration, ce genre de choses. Ça se renouvelle tout le temps. En fait, dans le jeu, moi, j'ai pas vu le temps passer, très honnêtement. Okay, et j'ai pas eu de frustration en terminant le jeu parce que j'étais satisfait, quoi.
Bah, ça me tapait déjà dans l'œil, là. C'est vendu.
Ah, par contre,
vendu.
Dernière critique. Et, je pense qu'il y a un petit souci de conception dans le jeu parce que, à mon avis, j'ai dû faire un séquence break à un moment donné qui n'était pas voulu. Parce qu'il y a un moment donné, si tu veux, dans le jeu, où ils te disent, au fait, il faut que tu ailles là pour suivre la suite de l'histoire, en gros. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai retourné tout le reste de la map avant d'aller dans cette zone-là. Mmh. À un moment donné, j'ai fait une certaine action qui a trigger la suite de l'histoire, quoi, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé devant le boss de fin, en fait, sans que le jeu prenne en compte que j'avais pas fait cette portion, tu sais, de jeu où il y avait visiblement des événements de l'histoire que j'ai pas vu. Et du coup, je me suis retrouvé avec des dialogues où je comprenais pas ce qui s'était passé parce que, bah, j'avais assister à ces scènes-là, en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est un séquence break involontaire, mais le problème, ouais, c'est qu'à partir de ce moment-là, absolument tous les pouvoirs que tu débloques te permettent d'accéder à toutes les zones du jeu. Il faudrait qu'ils retravaillent les dialogues, tu vois, pour dire que, alors, ok, si t'as pas vu cette section-là du jeu, on va te mettre ce dialogue-là. Parce que là, je me suis arrivé, j'ai fait, mais je comprends pas, j'ai dû rater un épisode, là, il te manque quelque chose.
Si j'ai bien compris, donc c'est, en gros, t'es arrivé à la fin, mais ça te parle d'une séquence que t'étais pas obligé de faire.
Voilà, c'est ça.
Ok, d'accord.
Tout simplement. Mais peut-être que dans la tête des développeurs, je sais pas, ils se sont dit ok, normalement, quand il arrive là, il a fait cette séquence-là. Sauf que t'as les joueurs chiants comme moi qui se sont dit... parce que à ce moment-là, si tu veux, le jeu, il te dit assez explicitement, il faut aller là. T'as un espèce de sidekick marrant qui est avec toi tout le long du jeu. Et ce sidekick, il te fait comprendre que si tu vas là-dedans, attention, machin. Donc tu sais, ça sent la fin du jeu, quoi, en fait. Et en fait, non, c'est pas la fin du jeu, c'est ça le truc. Donc du coup, en fait, moi, je me suis dit à ce moment-là, ok, avant de faire cette séquence-là, je vais faire toute la map et je reviendrai après.
Ouais.
Sauf que, en faisant ça, je me suis rendu compte que j'avais débloqué d'autres pans de l'histoire. Moi, j'étais content parce que au départ, je me suis dit, en fait, là, je suis en train de débloquer une fin alternative, etc. J'ai été plus intelligent que le jeu. Non, c'est pas que j'ai été plus intelligent que le jeu. C'est juste que j'ai sauté une étape, quoi, en fait.
Oh, merde.
Et c'était pas apparemment prévu par les développeurs, ne serait-ce que parce que, déjà, bon, il y a pas d'achievement lié à ça, mais en plus, d'un point de vue histoire, je comprenais rien. Je disais, mais pourquoi il me parle de ça? Pourquoi il me parle du séquence que j'ai pas vu, en fait? Tout simplement.
Ouais, je vois.
Mais okay, sinon, okay. Voilà, bon, je m'arrête là pour la critique du jeu. Honnêtement, c'est pas un jeu qui va révolutionner le Metroidvania. Mais, par contre, si vous aviez peut-être décroché du premier parce que vous trouviez que le level design, c'était pas trop ça, quoi, on va dire. Je vous conseille quand même d'y jeter un œil parce que la grande qualité de Celesti Mordic 2, fondamentalement, c'est le fait que, ben, son level design est léché. Ah oui, et dernier point, la musique. C'est fait par le compositeur de Hotline Miami. Alors, je sais plus comment il s'appelle, c'est El Huervo, je crois, un truc comme ça. C'est magnifique. Voilà. Comme d'habitude, de toute façon, avec Steam Ordig, c'est de la musique de qualité. Donc, franchement, c'est un Metroidvania, alors certes, qui révolutionne pas le genre, mais qui a toujours les spécificités du premier épisode, qui était déjà innovant, et surtout, c'est un Metroidvania qui apporte quelque chose au schmilblick par rapport à son prédécesseur, en fait. Donc, pour le coup, on a une version peaufinée du prédécesseur, qui était déjà intéressant par rapport à ce qu'il apportait au Metroidvania. Donc, ma foi, moi je dis, ouais, allez-y. On a un Metroidvania intéressant, avec une formule polish. Par contre, si un Steam World Dig 3, les mecs, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à rajouter. Et peut-être dernier point, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, d'un point de vue lore, on commence à avoir une timeline qui se dessine dans la série. Et ça, je trouve ça assez cool. Et j'ai hâte de voir le prochain épisode dans cette série. Et j'espère que cette fois, par contre, ce sera une nouvelle expérience comme ce qu'avait été SteamWorld Taste par rapport à SteamWorld Dig premier du nom. Voilà.
Bah, nickel, nickel.
Bon, pas de questions, on peut refermer le rideau, monsieur.
J'ai juste une dernière question. Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas SteamWorld Dig 1, est-ce que tu conseilles plutôt de faire le 1 d'abord ou de passer directement au 2?
Non, parce que, alors, après, c'est vrai que, d'un point de vue scénar, c'est la suite directe du 1. Mais je veux dire, le scénar n'est pas non plus... En gros, dans SteamWorld Dig 1, le héros du 1 a buté le méchant. Et tu joues, en fait, la nana à qui le héros revendait les matériaux dans SteamWorld Dig 1 et qui part à sa recherche, tout simplement.
D'accord.
Et tout le MacGuffin du jeu, en fait, c'est retrouver le héros de SteamWorld Dig 1. Mais après, le scénar, je veux dire, c'est pas la qualité principale de SteamWorld Dig. La qualité principale des SteamWorld Dig, d'un point de vue ambiance, on va dire, c'est plus l'écriture et l'humour, quoi. L'univers développé est intéressant, mais il n'y a pas besoin de le faire, je trouve, pour s'attaquer à SteamWorld Dig 2. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si vous aviez envie de faire le 1, faites le 1 avant le 2, parce que je pense que faire le 1 après avoir fait le 2, quand t'as goûté au 2, c'est difficile, quoi. D'un point de vue de level design, etc., c'est quand même beaucoup moins intéressant.
Ok, ça marche.
Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Salut.
Rends les médocs.
Oh merde.